Radio de la Paix, il est 7 heures. Le journal de 7 heures, Didier Blé.
Très heureux de vous retrouver pour cette première session d'information. Bienvenue à tous. Côte d'Ivoire, reprise quasi effective des services Internet après 48 heures de perturbation. Cependant, le véritable test pour la confirmation de cette reprise à la normale est attendu en début de semaine. Et puis, à presque 20 mois de la présidentielle, il nous a intéressé d'échanger avec un politologue sur certains aspects. Geoffroy Julien Kouao, analyste politique, propose que le droit de vote soit fixé à 16 ans et que le vote soit obligatoire en Côte d'Ivoire. Hors de chez nous, au Niger, le CNSP dénonce l'accord militaire de 2012 avec les États-Unis. Au cours de ce journal, vous aurez donc la revue des titres présentée par Raoussi Potin. Et puis l'invité de la rédaction nous conduira au pays de la Teranga. À une semaine des présidentielles, le professeur Jean-Louis Correa, agrégé de droit au Sénégal, salue le rôle important joué par les institutions sénégalaises. Il sera en compagnie de Francis Cassi. Voilà pour le sommaire. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. Reprise quasi effective des services Internet après 48 heures de perturbation. La fourniture des services Internet est rétablie en majorité en Côte d'Ivoire depuis ce samedi 16 mars 2024 après une forte perturbation du réseau chez deux gros opérateurs télécoms du pays, justement eu égard à une interruption de 4 câbles sous-marins. Cependant, le véritable test pour la confirmation de cette reprise à la normale est attendu en début de semaine. Outre la Côte d'Ivoire, où la situation était plus critique, une dizaine de pays ont également été touchés par cette crise, parmi lesquels le Bénin, le Ghana, le Burkina Faso, le Togo, Cameroun, Niger, Nigeria, Afrique du Sud. Et depuis lors, les sociétés sont à pied d'œuvre pour faire face à la situation. Selon le Financial Times, plusieurs entreprises ont déclaré avoir pris des mesures. Les groupes de télécommunications, de technologie sont contraints de rediriger le trafic Internet. Et le géant de la technologie Microsoft a déclaré que les coupures de câbles avaient affecté la capacité globale sur la côte est de l'Afrique. À presque 20 mois de la présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire, le politologue et juriste Geoffroy Julien Kouao fait des propositions pour, dit-il, améliorer le mode de scrutin. Il propose que le droit de vote soit fixé à 16 ans au lieu de 18 ans et que le vote soit obligatoire en Côte d'Ivoire. Suivons donc les explications de Geoffroy Julien Kouao.
Il faut essayer d'améliorer notre système électoral. Vous le savez très bien, notre démocratie est caractérisée par l'abstention. Lorsqu'on regarde les élections locales et les élections nationales, le taux d'abstention est très très élevé parce que, selon la Constitution, le vote est un droit et non une obligation. Je pense que pour donner plus de légitimité à nos élus et pour permettre une participation massive de la population aux différents scrutins, il serait nécessaire de rendre le vote obligatoire. Ce ne serait pas une grande première parce que plus d'une vingtaine d'États à travers le monde utilisent déjà le vote obligatoire. Les jeunes de 16 et 17 ans sont en majorité en classe de terminale, de première année d'université. Donc ce sont des gens intellectuellement matures. En instaurant le vote à 16 ans, c'est une manière d'amener les jeunes à connaître très tôt les enjeux électoraux. Et là encore, la Côte d'Ivoire ne serait pas le premier pays à le faire parce qu'on a une quarantaine d'États à travers le monde qui utilise déjà le vote à 16 ans.
Pourquoi c'est maintenant? Vous faites ces deux propositions-là?
Nous sommes à 20 mois de l'élection présidentielle, donc je pense que l'occasion est opportune pour l'intellectuel que je suis de faire des propositions dans l'espace public et j'espère que les autorités compétentes comme les députés, les sénateurs et autres vont s'en saisir et étudier la question pour améliorer notre système.
Le juriste et analyste politique Geoffroy Julien Kouao, interrogé par Constant Maïlé. Le conseil régional du Tchologo ambitionne de prioriser l'employabilité des jeunes et des femmes dans la perspective de leur autonomisation. C'est la principale décision qui a sanctionné les travaux de la première session 2024 de cette institution, tenue le samedi 16 mars à Kong, d'où nous appelle Joseph Assaré, notre correspondant dans le Gbeke.
Revenant sur les élections municipales partielles du 2 septembre dernier dans la région, le président du conseil régional du Tchologo, par ailleurs ministre d'État, ministre de la Défense, a déploré le comportement de certains partisans d'un candidat, Téné Bireima Ouattara.
Lors de la reprise de l'élection municipale de la commune de Fenke, malheureusement, nous avons relevé des cas d'indiscipline de la part de certains
Il appelle à l'union tout en engageant le corps préfectoral dans la sensibilisation.
Les élections maintenant sont derrière nous. Je voudrais inviter vraiment le corps préfectoral à donner des conseils aux autres. Évitons donc des comportements que je qualifierais d'indécents à l'égard donc d'adversaires politiques. Monsieur le préfet, je compte beaucoup sur vous pour leur faire comprendre que ce n'est pas dans cette voie que les choses pourront prospérer. J'ai demandé à nos partisans de garder le calme, leur demande de mettre bas la terre pour que donc l'entente, la fraternité revienne après ces élections. Ceci est très important pour la cohésion à la commune de Ferquet.
Des propos qui rencontrent l'assentiment des populations.
Il faut bien se comporter, ne pas faire des palabres.
Adama Ouattara, conseiller au district autonome des Savanes. L'élection, c'est un jeu. Continuez avec plus de cohésion parce que nous nous engageons dans l'élection en tant qu'adversaires, mais tous pour le seul objectif d'améliorer le bien-être et le mieux-être de la cité.
Joseph Assalé, Kong, Radio de la Paix.
Poursuivons ce journal après Kong et Tchologo. Retrouvons-nous donc dans la région du Haut-Sassandra. Une cérémonie traditionnelle et spirituelle de purification a été organisée par les cadres et les populations du Haut-Sassandra pour le général Dogbo Bruno, récemment libéré après 13 ans de prison. C'était ce samedi 16 mars à Lobo-Guigia, dans la sous-préfecture de Bogué. Occasion pour le général Dogbo Blé d'inviter les populations à construire un avenir de paix en Côte d'Ivoire. Compte rendu, Jean-Noël Kwame.
Au nom des cadres de la sous-préfecture de Bogué, Rouba Daleba a relevé le caractère apolitique, spirituel et traditionnel de cette cérémonie de retrouvailles.
L'association des cadres organise la présente cérémonie pour manifester à Dogoblé Bruno leur joie de le revoir après 13 ans, une occasion de lui offrir le bain rituel destiné à purifier son corps et son âme des souillures carcérales que l'éternel Dieu ouvre les éclus des cieux, sans oublier de toucher le cœur des décideurs afin de libérer ceux qui seraient encore détenus, afin que nous retrouvions une Côte d'Ivoire plus réconciliée et plus paisible.
Après le rituel de purification, le général Dogbo Blé a remercié le président Alassane Ouattara, les anciens présidents Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié pour leur contribution à sa libération. Il a appelé à la paix et à la réconciliation.
Je vous serai toujours reconnaissant. Nous avons fait une guerre. Nous avons atteint le fond. Partout où vous êtes, parents d'ici et d'ailleurs, œuvrez pour la paix, pour l'avenir de nos enfants.
L'honorable Likan Jean, député de Bogué, le professeur Hubert Oulahi, au nom des cadres Ouen, l'ex-ministre Odette Souyé, au nom du président du PPACI, Laurent Gbagbo, et divers autres cadres et chefs de village venus de l'ensemble du pays, ont manifesté leur soutien au général Dogbo Blé au cours de cette cérémonie de purification et de retrouvailles. Jean-Noël Kwame, de retour de Lobo-Guigia, Radio de la Paix.
Merci de nous suivre à 7h07. Parlons de la 41e édition de la Journée mondiale des droits des consommateurs qui a été célébrée vendredi 15 mars en Côte d'Ivoire autour de la thématique l'intelligence artificielle équitable et responsable pour le consommateur. Vie chère en Côte d'Ivoire, quelle solution ? Le thème national retenu. Et à cette occasion, la Fédération nationale des associations de consommateurs de Côte d'Ivoire en collaboration avec la FESI, Fédération étudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, a organisé des panels à l'amphithéâtre de la Faculté des sciences techniques de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Cocody. Jean-Claude Mabéa.
Concernant le premier panel sur l'intelligence artificielle, les étudiants Sangaré Ahmed et Kofi Evelyne, tous deux entrepreneurs en technologie et panélistes, ont échangé avec l'auditoire sur ce nouveau concept.
L'intelligence artificielle n'est rien d'autre que l'interaction entre l'humain et la machine pour pouvoir exécuter des tâches.
Notre thème IA équitable et responsable pour les consommateurs, ça veut dire est-ce que l'intelligence artificielle peut être utilisée par des riches comme par des pauvres, par des personnes handicapées comme par des personnes qui sont bien portantes? Est-ce que l'IA peut favoriser le respect de l'éthique humaine?
Ensuite, le président de la FACSI, la Fédération nationale des associations de consommateurs de Côte d'Ivoire, a exhorté les consommateurs à dénoncer les commerçants véreux à travers l'application Contrôle Citoyen. Yves Aka.
Désormais, on ne doit pas attendre que le ministère du Commerce vienne contrôler les prix dans nos quartiers pour pouvoir alerter l'État. L'application Contrôle Citoyen nous permet nous-mêmes de contrôler les prix. Tu vas dans un magasin, tu te rends compte qu'il y a une augmentation illicite de prix, tu vois un produit périmé, tu vois un instrument de mesure défectueux, tu prends ton téléphone, tu prends les photos et puis tu renseignes au niveau de l'application, tu balances l'information au niveau de l'administration du commerce. Automatiquement, il y a une brigade de contrôle qui vient pour pouvoir sanctionner l'opérateur véreux.
À noter que que le ministère du Commerce et de l'Industrie a également mis en place une application dédiée au relevé des prix pour obtenir en temps réel la variation des prix des produits de grande consommation pour lutter efficacement contre l'inflation.
Bonne performance pour l'économie ivoirienne en 2024. La richesse nationale passera à plus de 52 413 milliards de francs CFA contre 47 882 milliards de francs CFA en 2023, soit une augmentation de 9,3%. C'est ce qui ressort notamment des données communiquées par le ministère des Finances et du Budget dans son document intitulé « Budget citoyen 2024 ». Quels sont les éléments qui fondent cette prévision positive du ministère ivoirien des Finances et du Budget ? Suivant ce propos, les explications de Germain Cramaux, chercheur à la CAPEC, la cellule d'analyse des politiques économiques du CIRES, le Centre ivoirien de recherche économique et sociale. Docteur Germain Cramaux est en ligne avec Jean-Claude Comé.
L'augmentation de la richesse nationale traduit simplement que nous avons produit plus de richesse que l'année précédente. Donc, c'est-à-dire qu'en 2023, on a produit autour de 47 000 milliards et on projette produire autour de 52 000 milliards. Donc, c'est l'augmentation de la richesse créée dans le pays. Donc, c'est tout ce qui est créé comme activité au niveau des différents secteurs d'activité et c'est tout cela qui est agrégé pour pouvoir donner ce chiffre autour des 52 000 milliards. Cette croissance sera tirée par le secteur secondaire et aussi, pour qu'il y ait cette croissance, il faut les investissements. Donc, les investissements vont augmenter de l'ordre de 11,9%. Donc, ce sont les investissements qui seront réalisés qui vont permettre de créer cette richesse et cette hausse de richesse-là comptabilisée au niveau du produit intérieur brut et qui est estimé à 52 000 milliards.
Alors, cette évolution de pratiquement 10% de croissance, cela dénote d'un certain dynamisme de l'économie ivoirienne. Mais est-ce que c'est une croissance qui se maintient?
Effectivement, on constate qu'on réalise des taux de croissance assez élevés. Donc, si nous voulons arriver à passer de pays en voie de développement à pays en transition ou bien pays à revenu intermédiaire, il faudrait que nous arrivions à maintenir ces taux de croissance assez élevés, mais soutenus sur une longue période.
Docteur Germain Cramaux est interrogé par Jean-Claude Comé. En page africaine, au Niger, le CNSP dénonce l'accord militaire de 2012 avec les États-Unis. Le Niger a dénoncé le samedi, dans la soirée avec effet immédiat, l'accord de coopération militaire avec les États-Unis. Un accord signé en 2012, alors que les Américains disposent aujourd'hui d'environ un millier de soldats dans le pays, ainsi que d'une importante base de données à Agadez. Et puis à la télévision nationale, le porte-parole du gouvernement a jugé cette coopération injuste et ne répondant pas aux attentes. Sans transition, nous retrouvons pour la revue des titres Aoussi Poutin qui nous a rejoint en studio. Poutin, bonjour.
Bonjour à vous Didier, bonjour à tous. Alors vous en faisiez cas tout à l'heure dans le corps de votre journal, hein, Didier. Sorti donc de prison suite à la grâce présidentielle du 23 février 2024, le général de brigade Dogboblé était dans son village natal le week-end dernier. Un fait qui a retenu l'attention de certains tabloïds parus ce jour, avec des angles d'écriture très différents. Ainsi, les quotidiens L'Inter et Soir Info ont choisi de mettre en relief à leur une respective les allusions de ce dernier avec un autre général, savoir Philippe Mangou. Dogboblé règle ses comptes avec Mangou. Titre donc de son côté L'Inter, en extrayant, en proposant un extrait des propos de ce dernier, et nous le citons, à la CPI, il, parlant bien sûr du général Mangou, m'a traité de tous les noms. Et puis dans la même veine, le Soir Info d'indiquer que depuis son village, Dogboblé charge Mangou. Alors face à ces charges, à cette intervention du récemment libéré de prison, pour le journal L'Avenir, eh bien, il faut se poser des questions. Et au-delà des questions, le journal L'Avenir trouve que ces prises de parole du général Dogboblé, eh bien, sont quelque peu discutables, d'où son titre de une. Trois semaines après sa sortie de prison, Dogboblé sombre dans le mépris et l'arrogance avec une interrogation, celle-ci. Ouattara a-t-il eu tort de le gracier ? À part donc ce sujet, le second sujet qui a donc retenu l'attention Didier des journaux parus ce jour, eh bien, c'est l'élection de 2025. 2025, des interrogations se posent, mais pour certains journaux, eh bien, pas d'interrogation lorsque l'on fait allusion donc au chef d'État Alassane Ouattara. Et c'est sur le sujet, le Patriote titre, rapportant des propos de la ministre de la Fonction publique, Anne-Désirée Ouloto, depuis Bangolo. Et nous citons donc cet extrait de propos de la ministre figurant à la une du Patriote. On continue avec Ouattara en 2025. Alors, si cette affirmation susciterait en vous certaines interrogations, le Rassemblement vous propose donc les quatre raisons qui justifient la candidature du président Ouattara à la présidentielle de 2025. Et puis, le quotidien Le Sort d'indiquer toujours, se rapportant donc au propos de la ministre Anne Ouloto, de proposer donc un extrait, l'extrait suivant. Et nous citons « Ouattara ne bougera pas en 2025 ». Certitude du côté des journaux proches du pouvoir, nous allons le dire. Du côté de journaux donc proches de l'opposition, à l'image de Nouveau Réveil, eh bien, l'élection présidentielle 2025 suscite autre regard. Le titre de une donc ce matin de Nouveau Réveil, le voici. Élection présidentielle de 2025, le RHDP déjà dans les basses manœuvres contre Thiam et le PDCI RDA. Terminons Didier avec le quotidien gouvernemental Fraternité Matin, qui est loin de ces deux sujets que nous venons d'aborder, qui propose donc pour sa part une interview du ministre de la Transition numérique et la digitalisation, Khalil Konaté, en abordant différents sujets, entre autres la poste de Côte d'Ivoire, la téléphonie mobile, la 5G, la cybersécurité. Fratmat qui indique donc que le ministre donne l'assurance suivante. Et nous vous proposons donc le titre « Mes actions pour accélérer le numérique ».
Merci Potin. Et puis à très vite dans le prochain journal. L'invité de la rédaction ce lundi est le professeur Jean-Louis Courrier, agrégé de droit au Sénégal. Il salue le rôle important joué par les institutions sénégalaises, dont le Conseil constitutionnel pour l'élection présidentielle qui doit se tenir le 24 mars prochain, et appelle les institutions des autres pays francophones d'Afrique de l'Ouest à faire autant. Professeur Jean-Louis Courrier répond aux questions de Francis Cassie.
Professeur Jean-Luc Correa, bonjour.
Oui, bonjour.
L'opposant Ousmane Sonko et son second Diomande Faye viennent d'être libérés. Vos impressions sur cette libération?
Je trouve que c'est conforme à une volonté qui était en tout cas largement exprimée par la société civile, par des acteurs politiques, etc. Et je pense que cette libération participe justement de cette décrispation entre les acteurs politiques.
C'est une libération suite à une amnistie, non?
Oui, c'est une libération suite à la loi d'amnistie votée qui amnistie les faits allant de mars 2021 à maintenant 2024, notamment tous les faits assez graves qui s'étaient déroulés au Sénégal il y a quelque temps. Et justement, cette loi a été promulguée par le président de la République.
Donc, est-ce à dire que Ousmane Sonko et Diomande Faye peuvent se présenter un jour à des élections?
Oui, Diomande Faye a déjà été déclaré apte par le Conseil constitutionnel. Donc, Diomande Faye pourra, pour le reste du jour, battre campagne pour justement son élection au nom du parti PASTEF dirigé par Ousmane Sonko. Ce n'est pas le cas d'Ousmane Sonko. La liste a été confirmée. Il y a 19 candidats qui sont partants pour l'élection.
Alors donc, Ousmane Sonko, pour ses élections présidentielles, il est déjà grillé. Mais si dans les années à venir, il y a des élections, il pourra se présenter, c'est ça?
En principe, oui. Il pourrait participer à de prochaines juges électorales, législatives, présidentielles, etc. Parce que justement, la loi d'amnistie a pour effet d'effacer ces condamnations-là. Donc, effectivement, il retrouve ses droits civils et politiques.
La libération de Ousmane Sonko et de son lieutenant, quel est l'impact que cela va créer d'abord sur la campagne qui se déroule en ce moment?
Je dois avouer que la campagne était quand même assez terne. Très rarement, on a assisté à des campagnes électorales d'un caractère aussi insipide que ce que nous avons actuellement. Mais je pense qu'avec la libération de Diomaye, ça aura un effet sur le parti de Ousmane Sonko, mais également sur l'opposition, parce que la concurrence va jouer entre les acteurs et ceux qui étaient un peu lents, ceux qui étaient un peu ternes, vont se remettre un peu d'allant. Je pense que l'effet que ça va avoir sur les différents concurrents, c'est justement de se relancer un peu plus dans la course.
Et cette campagne électorale finit quand?
L'élection est prévue le 24 mars, donc la campagne va finir le vendredi 22 à minuit.
Alors vous, en tant que professeur de droit, politologue, expert, avec la libération, Comment est-ce que vous entrevoyez l'issue du scrutin présidentiel?
En tout cas, si l'on s'en fie aux réseaux sociaux, le parti d'Ousmane Sonko est très fort. Malheureusement, ce ne sont pas les réseaux sociaux qui votent. Il y a le parti de Macky Sall et de sa coalition qui reste quand même assez forte. Donc, ce qui fait qu'il sera peut-être difficile d'avoir un vainqueur au premier tour. La Cour suprême a rendu une dernière décision pour débouter encore une dernière fois ceux qui se disent spoliés du parrainage, dont Karim Wade, le fils d'Abdoulaye Wade. Donc, dans mon analyse, je suis en tout cas perplexe. Je ne suis pas sûr qu'on pourrait avoir un président dès le premier tour.
Tout à l'heure, vous avez parlé de Karim Wade. Alors, ce dernier en voudrait, si je ne m'abuse, au Conseil constitutionnel.
Oui, Karim Wade et ses alliés, ils avaient saisi la Cour suprême pour justement demander à cette juridiction, en matière administrative, d'annuler le décret pris par Macky Sall suite à la dernière décision du Conseil constitutionnel de convocation du corps électoral. Et la Cour suprême du Sénégal a justement rendu une décision déclarant irrecevable cette requête parce que le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, a déjà statué en disant non. Je pense qu'il faut s'en réjouir. Les hautes juridictions sénégalaises ont vraiment joué leur rôle en disant le droit. Et ça, il faut vraiment s'en réjouir.
Est-ce qu'on peut faire un parallèle par rapport à ce qui se passe aussi en Côte d'Ivoire? Il y a des voix aussi qui réclament des lois d'amnistie pour l'ancien président Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, Soro Diom et d'autres personnes.
Je pense qu'il n'est pas mauvais de repartir de zéro pour justement espérer une unité nationale renouvelée, reconstruite. Donc, de ce point de vue-là, les lois d'amnistie peuvent servir à ça. J'espère seulement que dans le cas ivoirien, que cela part d'une volonté réelle de réconciliation nationale, de pouvoir intégrer dans la vie politique des acteurs importants de la scène politique ivoirienne. Donc, je trouve que si ça part de ce sentiment, pourquoi pas? Les enseignements que je tire de la situation sénégalaise, pour nous tous les pays francophones qui avons la même structuration de nos appareils, je pense qu'il faudrait que l'on aille vers un travail plus important de renforcement de nos institutions, notamment du pouvoir judiciaire et de renforcement de l'Assemblée nationale, etc. pour permettre, comme vous le voyez dans le cas sénégalais, lorsqu'un président prend certaines décisions, qu'il y ait une institution qui puisse lui dire, monsieur le président, votre décision n'est pas conforme avec la règle de droit, pour pouvoir, lorsque l'exécutif entend violer la loi pour des considérations purement politiciennes, lui dire non, que cela n'est pas conforme à la règle de droit.
Professeur Jean-Louis Correa, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Professeur Jean-Louis Correa, le jury s'était interrogé par Francis Cassi et il revenait sur la quelle situation politique au Sénégal. Entretien qui referme ce journal de 7h, le rappel des titres. Reprise quasi effective des services internet après 48 heures de perturbation en Côte d'Ivoire. Cependant, le véritable test pour la confirmation de cette reprise à la normale est attendu en début de cette semaine. À 20 mois de la présidentielle en Côte d'Ivoire, il nous a intéressé d'échanger avec un politologue sur certains aspects. Geoffroy Julien Kouao propose que le droit de vote soit fixé à 16 ans et que le vote soit obligatoire en Côte d'Ivoire. Puis actualité hors de chez nous au Niger, le CNSP dénonce l'accord militaire de 2012 avec les États-Unis. À 8h, nous sommes là pour la deuxième édition. D'ici là, retrouvez Sonia Nzian pour la suite des Matins de la Paix.
Radio de la Paix, l'info juste et sans passion.